Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Le Ridon, Bertie Bourdon, Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Alors qu'on s'apprête à tourner la page d'une décennie riche en événements géopolitiques, nous allons revisiter ces 10 dernières années pour voir ce qu'il faut en retenir. 2010-2020, une décennie à la loupe. Jusqu'à jeudi, on évoquera un certain nombre de grands thèmes saillants, la montée du populisme, la crise de la démocratie, l'islam politique, la crise écologique, la sécurité humaine. Pour ce faire, nous sommes accompagnés par l'un des observateurs les plus avertis de la marche du monde, Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, un spécialiste des relations internationales et surtout, parrain de Culture Monde. Merci d'être avec nous, cher Bertrand. À partir de demain, on recevra un invité avec qui on vous fera dialoguer. Mais pour commencer, débutons avec une émission liminaire qui va nous permettre de poser un peu le cadre de ces échanges, Bertrand Badie, et de saisir ce qui, ces 10 dernières années, a vraiment changé dans notre monde, dans l'ordre international qui le structure. Pour engager nos échanges, je vous propose d'écouter un petit montage qui a été effectué par notre réalisateur Benjamin Hu, qui met en exergue trois acteurs, trois personnalités qui ont particulièrement, disons, fait parler d'eux ces dernières années et qui sont apparus précisément sur la scène politique et diplomatique dans cette décennie 2010.
2013. L'année 2013 a été une année spéciale pour notre pays et notre peuple. Ensemble, nous avons surmonté des difficultés et des défis de tout genre et obtenu de nouvelles et importantes réussites. En 2013, nous avons mené à bien un plan global comportant de profondes réformes et dessiné un horizon lumineux pour notre développement futur.
J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous.
En travaillant ensemble, nous allons pouvoir nous atteler à la tâche de reconstruire notre nation et de renouveler le rêve américain. J'ai passé toute ma vie dans le monde des affaires et j'ai observé le potentiel des projets et des personnes partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est ce que je veux faire pour notre pays.
Voilà donc trois chefs particulièrement marquants de cette décennie 2010. Évidemment, Donald Trump, le président américain élu en 2016 et qui depuis n'a cessé de remettre en cause le monde tel qu'il est, rejetant pêle-mêle le multilatéralisme onusien, le libre-échangisme, la sécurité de l'Alliance Atlantique héritée de la guerre froide, autant d'attitudes auxquelles évidemment ses homologues n'étaient pas franchement habitués. Xi Jinping, autre figure bien sûr, chef d'État chinois depuis 2013 et qui dispute aux États-Unis la place de leader sur le plan économique notamment, mais dont les ambitions vont en réalité bien au-delà. Et puis Aboubakar al-Baghdadi, feu calife autoproclamé d'un proto-État à cheval sur l'Irak et la Syrie, qui a donné tant de fil à retordre à une communauté internationale bien en peine à garantir sa sécurité. Alors Bertrand Badie, j'ai choisi ces trois chefs-là. Vous allez évidemment me dire ce que ça vous inspire, mais en lisant, en tout cas, je les ai choisis, votre introduction de votre dernier ouvrage, L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale. Dans cette introduction de cet ouvrage, vous revenez sur le concept d'hégémon, le chef, qui constitue évidemment une véritable obsession depuis l'Antiquité, et déjà à l'époque de Thucydide, célèbre historien et stratège athénien. C'est un concept qui, évidemment, a été particulièrement prégnant au XXe siècle, avec notamment, bien sûr, dans le rôle du chef des États-Unis, superpuissance, hyperpuissance, qui domine tout, depuis le volet militaire au volet culturel, en passant par l'économie et le commerce. Qu'est-ce que cette décennie nous dit précisément de ce mythe de l'hégémonie et comment ces trois figures semblent éclairer peut-être ces évolutions, Bertrand Badie?
Cette décennie... Je dirais qu'elle a été un vrai tournant. Alors, la formule peut paraître banale, parce qu'à la fin de chaque décennie, on dit « ça y est, c'était le tournant ». Là, quand même, mesurons l'ampleur de la transformation. J'appartiens à une génération qui est née dans un monde et qui va mourir dans un tout autre monde. Et ça, en l'espace de très peu de temps. J'appartiens à une génération qui est née dans un système international tiré au cordeau et qui était simplifié jusqu'à la dualité, la bipolarité, l'affrontement Est-Ouest, qui était dominé par des États-nations qui étaient porteur d'une puissance qui avait ses marqueurs très clairs, qui étaient la capacité militaire, les différentes formes de capacité militaire. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde global qui est tout à fait différent. Et ce monde global, il est d'abord caractérisé par la revanche du social à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est-à-dire autant au niveau des vies locales, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les micro-sociétés. Au niveau national, on en sait quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire ce contexte de retour fort de l'expression de la revendication sociale, et surtout au niveau global, dans la mesure où les dynamiques sociales, les tectoniques de la société, l'emportent sur les capacités militaires. La puissance militaire n'est plus un marqueur d'hégémonie.
Et là, c'est ce qui fait précisément qu'un Abou Bakr al-Baghdadi se retrouve à disputer sa puissance avec un Donald Trump ou un Xi Jinping, d'une certaine manière.
Je franchirais même encore un cran dans la provocation et je dirais que c'est un al-Baghdadi à la fin de notre décennie ou un Ben Laden au cours de la précédente décennie, mais toujours dans le même fameux 21e siècle ou 3e millénaire, qui ont fabriqué l'agenda international. C'est-à-dire que la puissance de proactive est devenue réactive. Autrefois, on suivait du regard les puissances, c'est-à-dire les titulaires de l'autorité dans les deux grandes puissances, les deux superpuissances, pour considérer que le moindre clignement d'œil, le moindre mouvement de cils venait transformer ou menacer de transformer le monde, ou en tous les cas de le mettre en péril, ou en tous les cas de le transformer.
Parce que le chef avait cette capacité à produire de l'ordre, voilà. Alors que ce que vous dites aujourd'hui, voilà, c'est qu'il n'a plus précisément cette capacité d'ordre, ou en tout cas qu'il produit encore plus de désordre qu'il ne produit d'ordre.
Et donc, le contestataire devient le proactif. C'est-à-dire une espèce de formidable inversion. La contestation, c'est en principe réagir à une situation que l'on juge insupportable. Aujourd'hui, et alors la domination était considérée comme le point de stabilité. La domination est maintenant source d'instabilité. On est entré dans le temps de l'instabilité hégémonique. Et la contestation conduit les affaires du monde. Et à tel point d'ailleurs, c'est un des paradoxes qu'il nous faudra épingler, je pense, plusieurs fois dans cette émission et peut-être dans les émissions suivantes, le chef de la seule superpuissance, qui est resté donc après la chute du mur, devient le principal contestateur de la mondialisation. Alors ça, c'est une révolution considérable dont on n'a pas fini de mesurer toutes les conséquences.
Mais pour quelle raison? Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup discuté autour de la question du retrait américain. C'était même le slogan de campagne de Donald Trump, hein, America First. Donc il y a cette dynamique de repli. Est-ce que c'est une dynamique de repli qui est voulue, souhaitée par un homme qui seul décide de cela? Ou est-ce qu'au fond, c'est le résultat de quelque chose de plus profond et d'une certaine manière comme si au fond les États-Unis avaient pris conscience que justement le monde avait changé, qu'ils n'étaient plus l'hyperpuissance qu'ils ont été et que désormais il fallait prendre acte que c'est fini, le monde a changé.
Je crois que c'est un phénomène qui s'est réalisé en plusieurs étapes et c'est la raison pour laquelle il est très difficile à cerner. C'est une mutation constante depuis que George H. Bush, le père, l'homme qui était président au moment de la chute du mur, appelait le nouvel ordre international que l'on devait construire. Ce nouvel ordre international, George H. Bush pensait le construire sur une victoire qui était la victoire des États-Unis sur l'URSS. Cette victoire, il ne faut pas la remettre en cause, elle est réelle. C'est-à-dire, l'URSS a été défaite dans la guerre froide par les États-Unis. Je dirais, c'est la dernière des défaites classiques dans l'histoire du monde et des relations internationales. Donc, c'est pas rien. Et sur cette base-là, on s'est aperçu très vite que les choses ne se passaient pas comme on pouvait les prévoir. premier temps, on s'est aperçu que la fin de la bipolarité a émoussé la puissance. C'est-à-dire que paradoxalement, le puissant qui n'a pas son équivalent face à lui est comme tétanisé, est comme incapable. Et regardez ce qui s'est passé de 1989 jusqu'à, en tous les cas, 2009, ça a été de manière constante des défaites américaines face à beaucoup plus petits. Cette défaite incroyable, une humiliation même, en Somalie en 1993, l'opération Restore Hope, les États-Unis y allaient d'ailleurs avec une perspective humanitaire pour tenter de renflouer cette situation catastrophique qui était celle de la Somalie. Ils ont été humiliés. Après, il y a eu la défaite en Irak, il y a eu l'impuissance patentée en Afghanistan. Et donc, face à cela, vous avez eu plusieurs postures. C'est ça qui est intéressant, parce que cette politique étrangère américaine, que l'on croit stable, multi-décennes dans sa constitution, en fait, elle a été marquée d'instabilité très forte après la victoire, après la chute du mur, après la victoire sur l'Union soviétique. Il y a eu d'abord la posture néoconservatrice, prêché par George W. Bush, le fils de George H. Bush, qui considérait que, dans un contexte où il n'y avait plus d'ennemis frontal, la mondialisation était providentielle, elle permettait d'universaliser les valeurs américaines. Après, il y a eu la posture Obama qui a dit « Mais regardez, cette espèce de néoconservatisme naïf, cette universalisation de nos valeurs, ça nous a conduit à la défaite et ça nous a été extrêmement coûteux. » Vous savez, la guerre d'Irak, c'est un coût absolument extraordinaire. Et on est maintenant, du coup, dans une troisième posture, qui est celle de Trump, qui consiste à dire, eh bien, face à la mondialisation, ayons une attitude pragmatique. Si la mondialisation peut nous servir, on l'utilise, et on l'utilise pour défendre les intérêts américains. Si elle nous coûte, on la laisse tomber.
On entend Bertrand Badie cette idée de la fin de la puissance, de la fin de la puissance étatique, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un acteur qui demande de nuancer un petit peu la chose, à savoir la Russie? Ça fait des années qu'on dit aussi que Vladimir Poutine organise avec une certaine réussite, disons-le, le retour de la puissance russe, que ce soit du côté de la Syrie où il est en capacité d'empêcher l'effondrement du régime de Bachar al-Assad, que ce soit avec la question de la Crimée où quand même il est parvenu à rattacher un territoire qui jusque-là appartenait à l'Ukraine, sans que personne ne bouge par ailleurs. Est-ce que ça, c'est pas la preuve que quand même, la Russie et l'État russe, la Fédération russe, est en capacité d'organiser un grand retour de cette puissance étatique, précisément?
Alors ça, c'est ce que j'appellerais la puissance négative ou la puissance par défaut. Il faut être très attentif à cela. C'est-à-dire que la Russie, l'URSS redevenue Russie, a subi une chute absolument incroyable de son statut, un effondrement de son statut de superpuissance qu'elle était jusqu'en 1990, à peu près, elle est devenue une sorte de puissance moyenne complètement marginalisée. Rappelez-vous l'époque yeltsinienne. Et ceci est très vite apparu comme insupportable à l'opinion publique russe. Nous revoilà dans le social, c'est-à-dire ce n'est pas tant l'État russe qui a réagi, c'est cette société russe qui, marginalisée, laissée de côté, méprisée, humiliée, a réagi et a demandé un retour de puissance, un retour de statut. Vous savez, le statut remplace en quelque sorte la puissance. Le statut devient plus important que la puissance, c'est-à-dire tenir son rang. Et au nom de ça, il y a eu les deux étapes que vous venez de rappeler, mais il y en a une encore avant, qui est le Caucase. Faut pas oublier que Poutine a gagné ses étoiles de président d'acier avec sa fameuse formule que je ne répéterai pas sur les ondes.
On ira les chercher jusque dans les chiottes.
Voilà. Vous êtes plus audacieux que moi dans le vocabulaire.
C'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. Voilà, avec des Tchétchènes.
Et ça, effectivement, vous pouvez l'interpréter comme un retour de la puissance. C'est-à-dire, je vais démontrer au peuple russe que nous sommes encore une puissance. Et d'un certain point de vue, et même d'un point de vue certain, ça a fonctionné. Bien sûr, ça a fonctionné en Crimée, ça a fonctionné en Syrie, mais quand même, trois problèmes. Premier problème, c'est une puissance militaire. ce n'est pas une puissance politique et diplomatique. Et c'est la raison pour laquelle la Russie est tellement attentive à pouvoir transformer ses prouesses militaires en Crimée. C'est pas vraiment une province militaire, c'est un état de force, je dirais. Mais surtout en Russie, en succès politique et diplomatique. Ça, c'est une autre paire de manches. On verra si vraiment la puissance est monétisée lorsque la Russie pourra, ce que vous appeliez tout à l'heure très justement, construire un ordre. Elle en est très loin. Deuxième élément, c'est une puissance acquise par défaut. Parce que si vous y regardez de très près, la Russie a surtout bénéficié, dans le cas syrien, mais dans les deux autres cas c'est la même chose, de l'effacement des autres. C'est-à-dire, c'est de manière tout à fait spectaculaire que la superpuissance américaine gagnante s'est trouvée tétanisée sur le champ moyen-oriental en général, et syrien en particulier. Et face à cela, effectivement, il y avait une carte à jouer, et M. Poutine s'en est saisi. Et troisième élément qui est très intéressant, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vladimir Poutine, c'est un fameux stratège et un très habile diplomate. Et il a compris ce qu'il fallait faire sur le champ syrien, c'est-à-dire ne pas y aller seul, mais y aller, sinon en alliance, parce que la notion d'alliance ne vaut plus dire grand-chose aujourd'hui, du moins en concertation avec les deux puissances régionales, qui sont l'Iran et la Turquie. Le jeu russe en Syrie a été porté par cette concertation, peut-être cette connivence, pour employer un terme que j'aime bien, avec l'Iran et la Turquie. Donc vous voyez, le paysage a complètement changé.
Quand je vous entends, Bertrand Badi, j'entends des termes comme puissance, comme diplomate. Vous avez utilisé le mot guerre. Or, précisément, dans l'ouvrage que j'ai sous les yeux, qui s'appelle « Nous ne sommes plus seuls au monde », qui était paru à La Découverte en 2018, vous disiez précisément que ces termes-là et le cadre conceptuel qui va avec, qui est hérité assez largement du système westphalien, que tout cela était caduque. Si vous les utilisez, c'est bien qu'ils ne sont pas complètement caduques.
Mais, cher Florian Delorme, c'est pas moi qui les utilise, c'est les acteurs dont nous parlons. Et c'est ça le drame.
Donc il faut réinventer quand même?
Le drame, c'est ce décalage qui est extraordinaire entre la pratique et le langage de ceux qui gouvernent le monde, en tous les cas le vieux monde, et la réalité du jeu international. C'est-à-dire que croire que pour rétablir un ordre au Moyen-Orient, un ordre régional, et peut-être même un ordre international, tant cette région est sensible d'un point de vue global, il suffit de gagner une nouvelle bataille de la Marne, ceux-là le font, mais se trompent. Et en se trompant, pérennise et prolonge un conflit. Et c'est justement le fond du problème. L'efficacité de la puissance russe, c'est ce que je questionnais il y a un instant, elle me paraît d'autant plus précaire et d'autant plus douteuse que ce qui est à la base même de la conflictualité et de la violence en Syrie et au Moyen-Orient et bien au-delà encore, n'a rien à voir avec le jeu stratégique connu depuis et illustré par Clausewitz et que l'on retrouve cristallisé dans le mot guerre. Ce sont des conflits plus que des guerres.
Est-ce qu'on peut espérer, compte tenu de ce contexte que vous nous décrivez, des instances en capacité de réguler précisément cette conflictualité? Compte tenu justement de l'effondrement, en tout cas de l'affaiblissement de ces puissances étatiques, que peut-on encore attendre aujourd'hui d'instances supranationales comme les Nations Unies, évidemment, qui sont quand même l'enceinte qui justement est censée organiser les choses de sorte à ramener la paix quand c'est nécessaire? Regardez ce qui s'est passé du côté de la Syrie, on l'a bien vu pendant des années, cette impuissance criante des Nations Unies à ramener la paix en Syrie. Est-ce qu'il faut se faire à l'idée que c'est terminé, l'ONU ne sera plus demain, ni même aujourd'hui, en capacité de régler ces conflictualités, ou est-ce que vous avez encore espoir?
Ce n'est pas du tout terminé. Je dirais, ça n'a pas encore commencé. Alors, arrêtons-nous sur ce point un moment. Il est complexe, mais il est déterminant. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire fait de globalité, fait d'interdépendance, fait d'inclusion. Vous savez que nous sommes dans le premier système international global qui n'ait jamais existé. C'est-à-dire que ce qu'on appelait système international jusqu'en 1945, c'était l'Europe. dans laquelle entrait de temps en temps l'Amérique du Nord. Mais c'était essentiellement l'Europe. Aujourd'hui, le système international, c'est le monde. 7,5 milliards d'individus, 5 continents. Et compte tenu de cette nouvelle configuration, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre mode de régulation des conflits, le fameux conflict solving dont parlent les anglo-saxons, que le multilatéralisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que tant qu'on était dans une logique souverainiste, c'est-à-dire de confrontation d'État à État, il y avait quantité de façons de résoudre les contentieux et les contentieux les plus brutaux entre États, à travers la négociation bilatérale, peut-être à travers la guerre d'ailleurs, et la décision sur le champ de bataille, puis ensuite la négociation sur un mode bilatéral ou en tous les cas d'alliance face à alliance. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce que nous sommes dans une logique d'interdépendance globale. Donc seul le multilatéralisme peut en être le moteur. J'aimerais dire, parce que ce n'est pas suffisamment dit, et malheureusement, ce n'est jamais dit par nos dirigeants ici en France, c'est que le multilatéralisme, c'est d'abord une invention française. C'est pas Monsieur Wilson et les États-Unis en 1917, comme on l'a cru. C'est essentiellement Léon Bourgeois, ce président du Conseil de la Troisième République, cet homme qui a écrit un ouvrage publié en 1910 qui s'appelle « Pour une société des nations » dans lequel il dit « Vu les transformations que l'on perçoit à l'horizon de la vie internationale, seul le multilatéralisme pourra résoudre demain les problèmes. » Et il appelait à la construction d'une société des nations bien avant le président américain. Et le problème, c'est qu'il y a eu deux tentatives. La première, c'est la SDN, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ensuite, les Nations Unies, en 1945, la Charte de San Francisco. Mais que nous avons eu, à chaque fois, affaire à un faux multilatéralisme. Ne nous faisons pas d'illusions. Le multilatéralisme onusien, c'est du Canada Dry. Ça a l'apparence du multilatéralisme, mais c'est pas du multilatéralisme. Dans la mesure où tout ce qui se rapporte au point jugé le plus sensible, qui est celui de la sécurité collective, de la guerre et de la paix...
Tout se fait au Conseil de sécurité.
Tout se fait, non pas au Conseil de sécurité, mais entre les 5 permanents détenteurs du droit de veto au Conseil de sécurité. Oui. Alors quand vous dites... les Nations Unies sont impuissantes dans le conflit syrien, comme elles le sont toujours et l'ont toujours été dans le conflit israélo-palestinien, avec quelques petites exceptions, la fameuse résolution 242 ou la résolution 338. Bref, si les Nations Unies ne sont pas capables de dégager la voie de la paix, c'est pas de leur faute, c'est la faute des politiques de puissance. Et j'ajoute un dernier échelon, dont je crois que nous reparlerons, et qui est absolument fondamental, c'est comme aujourd'hui, le véritable ferment des relations internationales, ce ne sont plus les chocs entre États, mais les chocs entre sociétés, le jeu des dynamiques sociales, il faut que ce multilatéralisme gagne ses galons de multilatéralisme social. Et pour cela, il faut organiser multilatéralement non seulement le jeu politique, mais le jeu social. Et c'est un espoir, parce que vous verrez que c'est plus facile d'organiser multilatéralement le jeu social que le jeu politique, dans la mesure où le jeu politique, il est bloqué par le jeu de puissance. Le jeu social, c'est un jeu beaucoup plus décentralisé. Et j'aimerais rendre hommage, aux premiers éléments de ce multilatéralisme social. Regardez le travail que fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Personne n'en parle, jamais. Ou la FAO, ou le Programme alimentaire mondial, ou le PNUD. Ils ont compris que c'était dans le développement social de la planète que l'on pouvait trouver les vraies sources de paix.
On aura l'occasion probablement d'en reparler cette semaine.
Voilà.
Pour comprendre au fond cette chute de l'hégémone, Bertrand Badi, il faut revenir au temps de la décolonisation. Vous expliquez l'introduction de cet ouvrage qui était paru chez Odile Jacob, je ne sais pas si je l'ai dit, l'hégémonie contestée. Vous expliquez que cette décolonisation, elle a été étouffée, elle a été banalisée, qu'elle a privé en réalité les nouveaux États de leur souveraineté réelle. Alors on aurait pu penser précisément que les priver de leur souveraineté réelle, ça allait être très bon pour les superpuissances, que ça allait conforter, que ça allait consolider cette hégémonie, sauf qu'en réalité, ça aboutit à leur remise en cause. Alors qu'est-ce qui, Bertrand Badi, dans ce processus de colonisation, a raté et quelles ont été les conséquences de tout cela sur l'ordre international ?
Alors, l'échec de la décolonisation, effectivement, c'est l'un des facteurs les plus graves qui pèsent actuellement sur la déstabilisation du monde.
Aujourd'hui encore.
Aujourd'hui,
plus que jamais.
Plus que jamais, parce que on en paye les dividendes, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire, cet échec de la décolonisation, qui est passé presque inaperçu, parce qu'à l'époque de la décolonisation, en gros, ça va de 1945-47 avec la décolonisation de l'Empire indien, l'Empire britannique des Indes, jusque dans les années 60 avec les décolonisations de l'Afrique et quelques petits prolongements dans les années 70. À l'époque, on était dans le match URSS-États-Unis, ce qui se passait à ce qu'on appelait de façon méprisant que la périphérie n'avait pas grande importance. Or, il s'est passé des choses capitales. Il s'est passé des choses capitales et deux choses essentiellement. Une chose interne, une chose externe. La chose interne, c'est quoi? C'est que on a obligé tous ces nouveaux États qui n'appartiennent pas du tout à l'histoire westphalienne à adopter le prêt-à-porter westphalien, c'est-à-dire à se construire en État-nation, alors que c'était pas du tout l'utopie qui commençait à monter dans le cerveau des intellectuels et des nouveaux leaders libérateurs du Sud.
Et pourtant, il y en avait, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Ils étaient bel et bien là.
Bah, bien sûr qu'ils étaient là. Ils ont joué un rôle incroyable, mais simplement, on ne les écoutait pas. Et quand les dirigeants de ces mouvements africains de libération parlaient de panafricanisme, on comprenait pas bien ce qu'ils voulaient dire, mais ils voulaient dire des choses extraordinairement précises. De même que quand on parlait de panarabisme, voire de panasiatisme. Et du coup, ces systèmes politiques qui se sont construits n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, regardez actuellement les systèmes politiques du Sud, la plupart soit sont allés, ont glissé vers la décomposition et l'effondrement, ce qu'on appelle le collapsing state, ces États qui s'effondrent, soit au contraire vers des crispations autoritaires qui ont transformé ces États en clans monopolisant le pouvoir et l'exerçant de manière extrêmement autoritaire et souvent corrompue. Donc le tableau est pas terrible, ce qui est aujourd'hui l'une des sources premières, sinon la source première, de la conflictualité qui se développe au Sud. Donc c'est pas une petite chose, ce genre de... La construction réussie d'États au Sud, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. L'autre dimension du sujet, c'est la dimension externe. C'est-à-dire, on a voulu aligner ces pays décolonisés sur ce qui était à l'époque l'axe Est-Ouest, et on leur a offert, entre guillemets, le double parrainage soviétique et américain. Or, ce qui s'est passé, c'est d'abord, il y a eu une réticence à l'alignement, c'est ce qu'on appelle le non-alignement, qui a quand même marqué toute cette histoire. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans qu'on s'en rende compte, à force de procéder par alignement forcé ou par marginalisation, périphéralisation, eh bien, on a rejeté tous ces États dans la contestation. C'est-à-dire, on a vu exploser, à partir des années 60-70, un nouveau type de diplomatie inconnue de M. Metternich ou de M. Talleyrand, qui s'appelait la diplomatie contestataire. C'est-à-dire, faute de pouvoir participer à la gouvernance du monde, bah on proteste. Or, le fond du problème est là. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas faire fonctionner cette planète sans multilatéralisme, c'est-à-dire sans co-gouvernance. Or, qu'est-ce qu'on a fabriqué après la décolonisation pour restabiliser le vieil ordre international? Des monstres comme le G7, comme les groupes de contact, comme tout un tas de choses de cette nature, dont ont été complètement exclus ceux qui représentaient non seulement la majorité de la population mondiale, faut quand même pas l'oublier, mais pis que ça, la majorité des souffrances mondiales. Si vous mettez à l'extérieur, moi ça me fait penser à la situation sociale en France, si vous mettez à l'extérieur de la décision tous ceux qui sont porteurs de la souffrance et que vous considérez qu'il n'y a pas à négocier avec eux, bah effectivement vous allez vers des chocs très violents et souvent simplificateurs. Bah on en est là.
Si on revient justement sur cette question de la construction d'État, vous le disiez, s'agissant par exemple de l'Afrique, alors même qu'il y avait précisément des propositions d'organisation politique peut-être différentes, on a forcé ces pays justement à rentrer dans ce cadre de l'État-nation, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, en réalité pour les pires, quand on voit l'état de leur développement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on regarde par exemple le Mali, ce qui s'est passé du côté du Mali? On a décidé, l'État français a décidé d'intervenir en 2013. Alors à l'époque, le discours qu'on a servi à l'opinion, c'est il faut absolument sauver Bamako. Bamako, il y a évidemment ces groupes armés qui sont en train de fondre sur la capitale et l'État malien va s'effondrer. Or, en réalité, le problème, il était peut-être pas tant sur les groupes armés qu'à Bamako, où effectivement, l'effondrement de l'État, il était déjà bel et bien là. Au fond, on avait déjà un État failli. Maintenant qu'on est intervenu, qu'on est sur place, on voit la situation là depuis plusieurs mois du côté du Sahel. Non seulement on n'est pas en capacité de repousser ces groupes armés, mais ils ne cessent de s'étendre. Si on regarde par exemple le Burkina Faso, qui était un pays qui pendant longtemps n'est absolument pas touché par tout cela, il a été tristement ces derniers mois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on y est, maintenant que la France y est, que les casques bleus y sont, que les armées nationales se sont, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, organisées pour lutter contre tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en retire? Est-ce qu'on laisse ces pays se débrouiller tout seuls, alors même que précisément il n'y a pas d'État, que l'État est en faillite? Qu'est-ce qu'on fait, Bertrand Badie?
Alors, pour l'instant, on s'efforce d'assurer la survie d'États qui, comme le dirait Kenkin, sont en situation de mort cérébrale. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans un monde où...
Vous faites référence à la saillie d'Emmanuel Macron à propos de l'OTAN.
Oui, je fais référence à...
Que ce soit parfaitement clair pour tous les auditeurs.
À l'état de grande pathologie dans lequel se trouvent ces États. Et vous savez, quand on constate des choses aussi graves, c'est-à-dire que sur 193 États membres des Nations Unies, une quarantaine, une cinquantaine, c'est difficile à chiffrer, sont en situation de mort cérébrale, sont en situation d'incapacité, il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi. Et il faut faire de la sociologie, il faut regarder ce qui se passe sur le terrain, et regarder aussi le jeu de conséquences qui en dérive. Le jeu de conséquences, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une situation d'absence ou d'extrême faiblesse des institutions qui sont censées organiser, produire de l'autorité, vous avez des groupes de substitution qui en profitent. Boko Haram, prenons cet exemple tristement célèbre, c'est un entrepreneur de violence. Tout le monde le sait. Mais si on se contente de dire ça, on va partir de l'idée que derrière Boko Haram, il y a des gens très méchants. Et que ces gens très méchants, il faut par tous les moyens les éliminer. Mais non. Boko Haram prospère parce que cette organisation agit sur un terrain qui lui donne un véritable fondement, qui lui donne un véritable socle.
Il faut voir ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse économique. Alors, il faut développer.
Mais oui, le recrutement de Boko Haram dans les grandes villes du Nigeria, par exemple, ou pour faire référence à un épouvantable épisode qui vient de se produire autour du lac Tchad, à travers la liquidation des populations civiles sur place, il faut comprendre comment ces entrepreneurs de violence recrutent. Ils recrutent parce que c'est facile de toucher des gamins désœuvrés dans la rue et qui sont aérés de corporation en corporation, et ces corporations finissent par faire le relais avec des entreprises comme Boko Haram. Il faut tenir compte de ces villages complètement affamés par la sécheresse et que ces entrepreneurs de violence sont en mesure d'alimenter en échange d'une soumission à leur ordre. C'est ces enfants soldats qui sont des gamins qui n'ont pas d'autre choix de survie que de s'engager dans ces milices.
Donc il faut accompagner le développement économique. Mais à court terme, qu'est-ce qu'on fait? On se retire militairement?
Alors d'abord, cessons le chantage du court terme. C'est-à-dire l'argument consistant à dire « de toute manière, le traitement social de ces conflits n'aura d'effet que dans 20 ans, donc il faut trouver autre chose pour le moment », si justement ça n'a d'effet que dans 20 ans, raison de plus pour commencer tout de suite. Oui. Parce que sinon, ça sera dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, etc. Donc, il faut être très ferme là-dessus. Le deuxième élément, c'est que il faut aussi apprendre à négocier. C'est-à-dire, on peut négocier avec tout le monde. On peut négocier avec tout le monde. Quand il y a un hold-up dans une banque et une prise d'otage, le GIGN va négocier avec les preneurs d'otages. Ça ne veut pas dire les légitimer, ça ne veut pas dire les aimer.
Mais qui doit négocier? L'État français? Parce que précisément la négociation, les États africains dont on parle, le Mali, le Niger, refusent de négocier avec les groupes armés dont on parle. Est-ce que, par exemple, hypothèse, un retrait militaire de la France ne forcerait pas ces États, en l'occurrence, en tout cas, même s'ils sont faillis, à négocier précisément avec ces forces.
C'est justement un des aspects du sujet. Et puis j'en viens à l'essentiel. C'est-à-dire que dans la double fonction indispensable de médiation, d'une part, et de containment, d'endiguement de la violence, le multilatéral est beaucoup plus en mesure d'être crédible, légitime, accepté que l'ancienne puissance coloniale. Le problème du multilatéralisme en Afrique, c'est-à-dire le multilatéralisme global, l'ONU, le multilatéralisme régional, l'Union africaine ou la CDAO, qui ont quand même fait ici et là la preuve de leur capacité. Le problème, c'est que on les bloque dans l'accomplissement de leurs fonctions parce que on ne veut pas, pour des raisons politiques et de rapport de puissance, leur donner le mandat qui correspond à l'état de nécessité actuel. C'est-à-dire, effectivement, il faut une police, mais pas une police française, une police internationale, une police multilatérale, une police africaine, une police mondiale, mais certainement pas une police coloniale ou postcoloniale ou néocoloniale, appelez ça comme vous voulez.
Donc, si je vous comprends bien, il faut partir, oui. Alors, évidemment, il n'aurait fallu jamais y aller, mais il faut partir.
Oui, il faut partir. Il faut partir pour deux raisons. La première et la plus grave, c'est qu'on s'aperçoit que non seulement on ne gagne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération de cette nature menée par la France, par les États-Unis ou par l'URSS, je pense à l'URSS en Afghanistan, qui ait jamais réussi. C'est quand même pas par hasard. Et c'est certainement pas dû à l'incompétence de ceux qui sont sur le terrain, qui généralement font un travail formidable.
Et c'est pas une nouveauté de la décennie 2010.
Absolument. Absolument. Et il faut partir parce que non seulement nous sommes en situation d'inefficacité, mais nous sommes en situation de contre-production. C'est-à-dire, non seulement on ne facilite pas la solution de la crise, mais on l'aggrave. C'est-à-dire que l'armée française devient un chiffon rouge qui légitime toute une série de propos mobilisateurs sur place. Exactement comme un nationalisme afghan s'est reconstitué face à l'ISAF et face aux troupes américaines. Regardez ce qui est en train de monter de manière assez dramatique d'ailleurs, au Mali ou d'une façon générale dans le Sahel, une sorte de retour à une francophobie parce que la population est exaspérée. Quand vous voyez des soldats qui ne viennent pas de chez vous et qui viennent en plus de l'ancienne puissance coloniale, vous êtes plus dans une situation de rejet, surtout si vous ne percevez pas les bénéfices de cette intervention, que dans une situation de soutien et de sympathie.
Et oui, Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, parce que autant l'armée française avait été accueillie, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'avait montré à travers les images comme des héros, autant aujourd'hui la contestation vis-à-vis des soldats français est considérable sur place.
Bien sûr,
on va évoquer peut-être dans un instant.
Sur ces questions très difficiles et complexes de l'intervention extérieure, vous savez, il y a trois questions qu'il faut se poser. Qui, comment, pourquoi ? Qui est habilité à intervenir ? Il y a une sorte de mécanique incroyable qui considère qu'on a une responsabilité naturelle. Moi, j'aime pas qu'on dise...
Au nom de l'histoire,
au nom du passé. Bah oui, mais justement, il faut regarder ce qu'est ce passé et comment il est perçu par les acteurs locaux. Deuxièmement, comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut opposer le canon à des entrepreneurs de violence. Vous savez, Barack Obama, qui était un homme extrêmement lucide, avait cette formule qui consiste à dire on ne combat pas le terroriste c'est pas un ennemi, c'est une méthode. Bon, eh bien, il y a à partir de cela tout un travail de remontée à faire, c'est-à-dire comment fait-on pour faire face à une violence qui est d'extraction sociale et non d'extraction politique. C'est un problème qui date pour nous Français de l'époque de la décolonisation où on s'apercevait que les mouvements anticolonialistes et de libération n'étaient pas des mouvements qui s'appuyaient sur des territoires mais qui s'appuyaient sur la volonté de contrôler une population, ce qui est différent et ça ne se combat pas de la même façon. Et enfin, troisièmement, pourquoi ? C'est-à-dire, pourquoi on est là ? Est-ce qu'on est là pour arrêter la violence, pour servir de tuteur à un régime, pour construire un nouvel ordre politique ? Tout ça, on ne répond pas à ces questions.
Et c'est pour ça que ça échoue.
Quand vous parlez à un chef militaire, et vous l'avez dit spontanément, quand on nous demande d'accomplir une action militaire sans nous dire précisément quelle est sa finalité, on ne peut pas.
On va parler dans un instant évidemment de la crise sociale, de la crise de la démocratie, parce que tout cela est évidemment en décor de fond et c'est éminemment important pour comprendre ce qui se joue à l'échelle du monde. Mais peut-être en quelques mots, on a parlé ensemble, Bertrand Badie, à l'instant de cette question de l'intervention française du côté du Sahel. On a déjà évoqué la question de la Russie, des États-Unis. Si je vous demandais de façon extrêmement globale ce que vous pensez de la diplomatie de Macron. Vous avez eu l'occasion de voir se déployer la diplomatie d'un certain nombre chefs d'État français. Que diriez-vous sur celle conduite par notre président actuel ?
C'est une diplomatie incroyablement conservatrice, c'est-à-dire qui est dans le prolongement de celle menée par ses prédécesseurs et qui s'orne de belles phrases, souvent de principes d'une grande lucidité, qui s'exprimait notamment pendant sa campagne électorale, où il expliquait de manière tout à fait ouverte et explicite qu'il fallait rompre avec le néoconservatisme, qu'on intervenait de trop. C'est des propos qu'il avait tenus pendant sa campagne électorale. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tout a été continuité. Et notamment ce chapitre très sensible, parce que c'est là que nos armées font porter l'essentiel de leur poids, de l'intervention en Afrique.
Alors même qu'il avait dit tout l'inverse dans son discours à Ouaga.
Ben exactement. Tout ce rapport à l'Afrique, cette fameuse France-Afrique, on la voit perdurer, alors que moi, je vais beaucoup en Afrique parce que l'Afrique me fascine, j'ai une affection et une admiration pour ce continent qui est très 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 forte. Qu'est-ce que je vois en Afrique ? Je vois une nouvelle génération d'intellectuels, 30 ans, 40 ans, je vois même des étudiants qui sont extraordinairement désireux de débattre des questions internationales, mais qui ont complètement changé de logiciel. Il y a 20 ans en Afrique, où on entendait des discours tiers-mondistes, où on entendait des discours mimétiques. Aujourd'hui, tout ça est dépassé. Et il y a une africanité qui se construit, qu'il faut regarder en face, et avec laquelle il faut travailler pour réinventer. Réinventer l'Afrique, c'est l'affaire des Africains, mais réinventer les relations entre la France et l'Afrique, c'est aussi
l'affaire des Français. Voilà. Bertrand Badie, on a encore énormément de choses à évoquer, mais le temps passe très vite. Venons-en peut-être à la question de la crise sociale et articulons-la, allons-y, n'hésitons pas, avec la question de la crise de la démocratie. Ça fait maintenant des mois, pour pas dire plus, qu'on voit une société française qui se tend sur à peu près tout, qui rejette assez viscéralement les réformes, les transformations, la dernière en date étant la question des retraites, mais il y avait eu d'autres choses, d'autres spasmes par exemple qui avaient provoqué le mouvement des Gilets jaunes avec cette fameuse taxe carbone. Comment est-ce que vous comprenez tout ça ? Est-ce que c'est au fond le résultat d'une crise économique et sociale profonde, particulièrement préoccupante, qui fait que la transformation n'est plus possible ? Est-ce que c'est quelque chose qui relèverait d'une erreur de méthode avec un gouvernement qui peut-être ne s'y prendrait pas forcément bien ? Est-ce que c'est encore plus grave que cela, docteur, à savoir une crise de la démocratie profonde ? Bertrand Badie.
D'abord, il faut comprendre ce que je disais tout à l'heure quand j'expliquais que le même homme, la même femme a pu vivre dans deux mondes différents. Notre monde a changé. On est dans la mondialisation. On est dans le temps mondial. Et d'ailleurs, ces mouvements sociaux que vous décrivez et qui sont de plus en plus prégnants, qui de plus en plus nous crèvent les yeux, c'est des phénomènes que l'on retrouve autant à Santiago du Chili qu'à Beyrouth, à Alger, à Paris, en Catalogne, et on pourrait ainsi continuer en Colombie, en Inde, regardez, etc. Donc il y a bien un temps mondial de la contestation. Et si on se réfère à ce temps mondial, le temps mondial, il s'est imposé après la chute du mur. Jusqu'à la chute du mur, on était dans le temps bipolaire. Après, lorsque le mur est tombé, rappelez-vous comment certains s'excitaient, enfin, pardon d'employer ce terme-là, mais je n'en trouve pas de plus pertinent, autour de thèmes qui maintenant font rire, mais moi ça me faisait déjà rire à l'époque, fin de l'histoire, fin des idéologies, fin de tout, quoi. En quelque sorte, on allait se coucher et tout allait se passer de manière naturelle à partir du triomphe absolu du marché. L'école de Chicago, alors chacun y remettait une louche, « there is no alternative », il n'y avait pas d'alternative. Bon, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il s'est passé pendant 30 ans, nous sommes là en 89, chute du mur, on est en 2019, donc pendant 30 ans, le règne d'un néolibéralisme échevelé, et aussi échevelé que la coiffure de M. Trump ou de M. Johnson. Voilà. Et quel a été l'effet de ce triomphe du néolibéralisme? Deux asphyxies. Et ça fait quand même beaucoup pour 30 ans. L'asphyxie du politique et l'asphyxie du social. L'asphyxie du politique, vous voyez, de crise de la démocratie. C'est qu'à partir du moment, hein, moi j'en ai parlé à monsieur de la Palice, à partir du moment où il n'y a plus d'alternative, est-ce que ça a un sens de voter et de débattre? S'il n'y a plus d'alternative, si le néolibéralisme est le modèle unique, eh bien effectivement, le débat politique, c'est au mieux un luxe, au pire, quelque chose qui est source de désordre permanent. Donc, on supprime le débat politique. Nous sommes entrés dans un temps qui a supprimé, il n'y a plus de débat politique. Qu'est-ce que c'est le débat politique? C'est pas Monsieur Truc et Monsieur Machin ou Madame Machin qui veulent devenir président de la République. Le débat politique, c'est deux modèles de société qui s'affrontent. Vous avez entendu parler de l'affrontement, de la confrontation de deux modèles de société quelque part dans le monde depuis 1989? Nulle part. Ni dans l'Europe occidentale, ni ailleurs, ni aux États-Unis. Tout ce que vous voulez. Bon. La deuxième asphyxie, ça a été l'asphyxie du social. C'est-à-dire, nous sommes, avec le néolibéralisme, arrivés à une situation complètement folle, qui est la dictature des docteurs en économie, qui considéraient que leur science est une science exacte, hein, combien de fois ils me l'ont dit, mes collègues économistes, que c'est une science exacte, et qu'à partir du moment où ils avaient la science, elle ne se discutait pas, comme on ne discute pas l'ordonnance de son médecin, et que donc le social n'existait que comme résultat, comme conséquence lointaine de l'économique. C'est ce qu'on a appelé la fameuse théorie du ruissellement. Growth is good for poor. Hein, on devait s'amuser au Sahel quand on lisait des formules de ce genre. Et du coup, nous sommes maintenant dans l'acte 2, c'est-à-dire ce double effacement du politique et du social a conduit à une réaction de demande de démocratie et de demande de renouvellement profond du politique et, d'autre part, une expression du social qui veut dire mais on n'est pas des pions, on n'est pas des bœufs, on a notre rationalité en tant que société, le grand Émile Durkheim l'avait montré de manière splendide, on a notre rationalité, une rationalité du social, on vous demande de gérer le social. C'est-à-dire, les retraites, c'est pas une question de rentabilité, c'est une question de vie humaine au quotidien.
Est-ce que les choses n'ont pas changé, Bertrand Badie, justement, parce que vous dites, finalement, depuis 40 ans, on nous a vendu la démocratie libérale, on a pensé, et c'est vrai qu'il y a une forme d'aveuglement, qu'elle allait tout emporter sur son passage, y compris la Chine, d'ailleurs. Elle nous a, d'ailleurs, donné la leçon de ce point de vue-là, parce que elle a inventé, finalement, un modèle qui, d'ailleurs, séduit d'autres dans le monde, mais... Est-ce que aujourd'hui, précisément, on n'est pas dans un moment où est en train de se construire une alternative? Alors, il y a évidemment la démocratie libérale, mais au-delà de la démocratie libérale, il y a quand même ce qu'on appelle un peu partout des populismes, avec évidemment tout le flou qu'il peut y avoir derrière tout ça. Est-ce que l'émergence des populismes, est-ce que l'apparition aussi peut-être de nouveaux clivages réels ou supposés d'ailleurs entre souverainistes d'un côté et mondialistes de l'autre, eh ben c'est pas précisément le retour d'une alternative finalement à tout cela.
Si c'était ça, ce serait bien. On serait optimiste. Le populisme, c'est d'abord une contestation. L'essence du populisme, c'est la contestation, c'est-à-dire le peuple qui se considère non représenté, qui se considère en décalage par rapport aux institutions politiques et qui exprime ce décalage. C'est une contestation et cette contestation, donc, peu à peu, se fait également expression. Expression d'attente, expression d'exaspération. Expression d'une condamnation contre les politiques d'humiliation, contre les politiques de marginalisation, mais ce n'est pas un programme de gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement populiste. Et quand il y a des gouvernements populistes, on s'aperçoit que soit ils font n'importe quoi et ils s'effondrent tout seuls, soit ils se rallient de manière un peu piteuse à l'ordre dominant.
Donc, il n'y a pas de programme populiste, mais en revanche, il y a quand même une idée souverainiste derrière les populismes, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Ah bah oui, mais vous me sortez un concept qui est encore plus ringard. C'est-à-dire le souverainisme, c'était très bien dans le contexte des États-nations triomphants lorsqu'il n'était pas question de gouvernance globale. Le souverainisme pour gouverner la question climatique, bonjour. Hein, on n'est pas sorti de l'auberge.
Pourtant, il y a beaucoup de populisme qui revendique justement précisément ça. C'est-à-dire le retour de l'État-nation qui remet en avant la question de l'identité nationale. Si on regarde du côté de la Hongrie, par exemple, aussi, mais il y a beaucoup d'autres...
On peut aussi prôner le retour à la machine à vapeur. On peut aussi prôner le retour de tout un tas de choses qui ont été totalement dépassées. Le vrai problème, c'est que les solutions nouvelles se construisent dans la mondialisation. C'est-à-dire, vous parlez d'altermondialisme, ça c'est une autre piste. C'est-à-dire effectivement savoir détacher la mondialisation de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que le gros péché qui a été commis, y compris par la gauche, c'est de considérer que la mondialisation c'est fatalement l'ultralibéralisme. Non! Il y a des formes autres de mondialisation. On sait ce que c'est qu'une mondialisation autre qu'ultralibérale. On sait ce que c'est qu'une mondialisation de gauche, par exemple. C'est la solidarité, c'est le multilatéralisme, c'est la régulation, la négociation. Il y a toute une série. C'est la protection sociale globale. Je rendais hommage tout à l'heure à l'OMS ou au PNUD. Ben voilà, ça s'inscrit là-dedans. Véritablement, l'alternance, elle est à trouver là. Le populisme, c'est un cri de colère. C'est un cri de colère.
Rien n'est jamais acquis à l'âme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvre les bras son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer...
Ah Badi, là, Bertrand Badi, vous appelez Badi, excusez-moi, Bertrand Badi. Oui, tout à fait, mais là, ça vous fait plaisir ce qu'on entend là. Hein.
Ah, ça me touche énormément. Cette chanson, je l'ai apprise de la bouche du grand Georges Brassens. C'est la seule chanson qui a réussi à me tirer une larme. On a l'impression qu'elle résume toute la souffrance humaine. Vous savez, je dis toujours à mes étudiants, les relations internationales, c'est la science de la souffrance humaine. Si enfin on regardait la souffrance avant de regarder la puissance, on comprendrait bien des choses. Je dis pas qu'on serait prêt à faire de grandes choses, mais en tous les cas, on serait en mesure de comprendre bien des choses.
Évidemment, quelle meilleure interprète que Nina Simone pour la faire passer.
Pour un autre destin. À quoi peut le servir de se lever matin?
Merci beaucoup Bertrand Badi d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouvera demain, je rappelle pour les auditeurs, quelques-uns de vos ouvrages. L'hégémonie contestée, le dernier en date qui était paru chez Odile Jacob, Quand le Sud réinvente le monde, Nous sommes plus seuls au monde, à la découverte. Enfin, on mettra tout ça sur la page de Culture Monde. Un grand merci, on se retrouve demain Bertrand Badi.
Il n'y a pas d'amour.
Heureux. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian Delorme.
En fin d'année, Brice, la coutume est de donner des conseils de lecture. Hier, c'était le livre d'un Britannique, David Goodhart. Ce matin, votre chronique s'intéresse au libéralisme.
Comme l'avait si bien relevé Victor Klemperer, le totalitarisme s'ingénie à perturber le sens des mots afin de rendre l'ignoble acceptable. Et de nos jours, ce sont les populistes qui s'ingénient à tout mélanger, qui tendent à se faire passer eux-mêmes pour le peuple. Il serait souhaitable de faire subir périodiquement aux mots un examen de signification, a écrit un philosophe. Rendons compte du livre d'Adam Gopnik, A Thousand Small Sanities, consacré à la défense du libéralisme dans l'Amérique de Trump. David Bell, un critique de The Nation, une revue marquée à gauche, écrit « Le socialisme, on sait ce que c'est. Ça a une consistance qui perdure à travers les générations. Il y a derrière ce mot un programme économique et social précis. Mais le libéralisme, on ne sait plus trop. » C'est pourquoi, quand on est de gauche aux États-Unis, on se dit « progressive » de nos jours, et non plus « liberals », comme le faisaient par exemple les partisans de Bill Clinton. « Liberal », ça sonne à présent comme « centre-gauche ». De gauche sur les questions de société, pas vraiment de gauche quant à l'économie. De fait, les intellectuels de gauche qui, comme Adam Gopnik, proclament leur libéralisme, sont immédiatement perçus comme des critiques du gauchissement en cours du Parti démocrate. Et tel est le cas de cet auteur, qui est un chroniqueur bien connu des lecteurs du très chic New Yorker. Pour lui, en effet, pour Gopnik, avant d'être une doctrine ou une idéologie, le libéralisme est un tempérament, un état d'esprit. Son livre se présente comme une conversation le soir de la victoire de Donald Trump avec sa fille, qu'il essaie de consoler au cours d'une déambulation dans une rue assez chic de Manhattan. Le décor est planté, la gauche de Gopnik n'est ni celle des usines fermées de la Rust Belt, ni celle des campus, dont il critique d'ailleurs l'intolérance et les préciosités stylistiques associées au politiquement correct. Non, c'est celle de l'intelligentsia réformiste et modérée de la côte Est, qui se méfie des grands soirs et qui méprise le Donald.
Et alors Brice, quelle définition Gopnik donne-t-il du libéralisme ?
Elle figure dans un chapitre étrangement titré « Le manifeste du rhinocéros » en hommage à deux de ses inspirateurs libéraux, le couple John Stuart Mill et Harriet Taylor, qui se rencontraient, paraît-il, clandestinement devant la cage de cet animal au zoo de Londres. Le libéralisme est difficile à aimer, c'est drôle à regarder, ce n'est pas joli, mais comme le rhinocéros, c'est une réussite complète, écrit Gopnik. Le libéralisme de Gopnik a hérité de notre Montaigne la conviction que l'espèce humaine est maladroite et faillible, des moralistes écossais des Lumières que les sociétés sont perfectibles, et de George Orwell la conviction qu'il faut toujours rester fidèle à la vérité. Comme l'indique le titre de son livre, Sanity renvoie à l'idée de santé mentale, de bon sens, Gopnik mise sur le libéralisme maintenu pour dresser une digue face à la montée du délire et de ce qu'il appelle le gangstérisme politique qu'incarne Trump à ses yeux. Il estime que le traitement du délire politique ambiant relève d'une forme d'hygiène mentale. En même temps, il appelle les libéraux à adopter les trois P. Ils doivent être, selon lui, passionnés, patriotes et public-minded, autrement dit tournés vers l'intérêt collectif. Ici, Gopnik rencontre d'ailleurs un autre libéral dont le livre a fait une très grosse impression aux États-Unis cette année et qui, contrairement à celui de Gopnik, a été traduit, lui, en français. Je veux parler de « La gauche identitaire » de Mark Lilla, dont le titre original était d'ailleurs « The Once and Future Liberal ». Pour cet universitaire, la gauche américaine a perdu face à Trump parce qu'elle s'est focalisée sur les politiques identitaires, perdant en route le sens du commun. Les Républicains ont réussi, dit-il, à persuader la majorité de l'opinion qu'ils sont le parti de M. Beauf et que les démocrates sont celui de M. Bobo. Or, il ne peut y avoir de gauche sans une notion du « nous », de ce que nous sommes en tant que citoyens. Enfin, puisqu'il paraît qu'on ne sait plus ce que signifie au juste le mot « libéral », je voudrais mentionner l'ouvrage « The Lost History of Liberalism ». Son auteur, Elena Rosenblatt, retrace l'histoire non pas du libéralisme en tant que doctrine, mais bien l'archéologie même du mot « libéral », l'histoire de son emploi dans les diverses langues européennes. Au passage, d'ailleurs, elle tord le cou à bien des idées reçues. Car figurez-vous, l'adjectif libéral, si on entame l'enquête sémantique dès l'époque de Cicéron, comme elle le fait, pour la conclure avec la théorie de la justice de John Rawls, comme le fait d'ailleurs Elena Rosenblatt, se charge de sens qu'il a pris au fil d'une bien longue histoire. D'abord, le fait que le libéralisme est d'abord une affaire française, figurez-vous, ce qui contraste avec notre réputation étatiste et jacobine. Ensuite, que les libéraux ont été constamment préoccupés par la justice sociale. Là encore, en contradiction avec la réputation qui leur a été faite. Enfin, que les théoriciens libéraux ont été souvent des moralistes, prônant les valeurs civiques. Bien entendu, les références de tous ces livres sont sur le site du Tour du Monde des Idées.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique, évidemment qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, c'est Raphaël Bourgois et La Grande Table.